Europe 1 Culture Média.
9h, 11h. Pascal Clark.
Bonjour ou bien rebonjour, puisqu'il faut bien compter les années, alors oui. Ce film-là a 25 ans, il pourrait en avoir 5, 10 ou 15. Non, il en a 25. En 1995, Mathieu Kassovitz sortait La Haine et l'on découvrait tout. La banlieue en noir et blanc et Vincent Cassel en même temps. 25 ans plus tard, aujourd'hui, le film ressort en salle en version restaurée. Et le réalisateur de La Haine, Mathieu Kassovitz, est l'invité de Culture Média d'ici un petit quart d'heure. Les Indispensables, Margot Barallon vous parle ce matin non pas d'une série, mais d'un documentaire musical en salle. White Riot. Pas facile à dire, je réessaye. White Riot. Et puis nous terminerons, comme tous les jours, en découvrant la première page d'un roman de la rentrée. Aujourd'hui, celle du livre d'Ilan Duran-Cohen, Le Petit Polémiste, à paraître chez Actes Sud. Bonne matinée à vous à l'écoute d'Europe 1. Jusqu'ici, tout va bien. Et le journal de la culture ne va vraiment pas tarder. La preuve. Bonjour Damien Caprespine.
Bonjour Pascal, bonjour à tous.
Au sommaire aujourd'hui.
Au sommaire, un festival suisse, une annonce du ministère, Madrid en plein cagnard, Mulan en VOD, un cinéaste sur les planches et du son bien saturé.
Et l'on attaque avec le festival de Locarno en Suisse, qui débute aujourd'hui et qui en plus mise sur le futur.
Oui, c'est un des festivals de cinéma parmi les plus sélects et les plus prestigieux de la planète. Et comme tous les événements du genre cette année, Locarno a dû revoir sa copie. Mais plutôt que d'annuler cette manifestation, les organisateurs ont décidé de proposer une édition mi-virtuelle, mi-réelle. Locarno 2020, ça se passera à la fois sur Internet et dans trois salles de la ville. Et la particularité de cette édition, c'est d'avoir choisi de présenter une compétition de films en devenir. Des films bloqués par la crise sanitaire qui sont à différentes étapes de leur production. Ils peuvent être en pré-production, en tournage, en finalisation de montage. En tout cas, tous tenteront de décrocher un prix qui les aidera à tenir le coup dans cette période si compliquée. Alors la programmation, comme à son habitude, fait la part belle, même très belle, au cinéma d'auteur mondial. Et si vous passez dans le coin, si vous souhaitez découvrir donc les films de demain, rendez-vous sur leur site internet www.locarnofestival.ch. CH.
Mais oui, c'est en Suisse. C'est officiel, Damien, les salles de spectacle vont à nouveau pouvoir faire le quasi-plein.
Le quasi-plein, c'est le ministère de la Culture qui l'a annoncé hier soir. À partir du 15 août, les rassemblements culturels de plus de 5000 personnes vont à nouveau être autorisés. Alors, il faudra bien évidemment respecter quelques consignes. Port du masque obligatoire, un siège de séparation entre les personnes ou les groupes. Mais les organisateurs de spectacles et de festivals commencent à retrouver un peu d'espoir. Et ce n'est pas fini, puisqu'à compter du 1er septembre, les spectacles pourront se tenir sans jauge ni autorisation préfectorale. Le ministère de Roselyne Bachelot a promis d'autres annonces pour le 24 août. Alors on attend de voir, on va surveiller tout ça de très près.
Plus de jauge à partir du 1er septembre. Bon. Au cinéma, un film sort à point nommé.
Oui, ce film, il s'appelle Eva en août, c'est un film espagnol. Donc nous sommes à Madrid, dans la première quinzaine d'un mois d'août caniculaire. Le soleil est écrasant, l'asphalte transpire, les corps ondulent malgré tout négligemment. Et au milieu de cette ville, il y a une jeune femme, Eva, une trentenaire qui se cherche, qui fait le point sur sa vie et qui va enchaîner les rencontres amicales et amoureuses pour mieux se retrouver.
Tu viens d'emménager ?
Non, un ami me prête son appartement pour quelques jours.
Ah, pour les vacances ?
Pas vraiment. En fait, je sais pas trop.
Alors Eva en août, c'est clairement du cinéma d'auteur. On pense à La Nouvelle Vague, on pense surtout au film d'Éric Rohmer. Et si Eva en août est parfois un peu long, il faut être honnête, le scénario mériterait d'être un tout petit peu plus resserré. On est quand même sous le charme face à l'actrice Itxaso Arana. Son personnage est attachant, on prend un vrai plaisir à la voir déambuler, se reconstruire dans cette vie d'avant. Oui, j'emploie le mot vie d'avant parce que c'est un peu étrange de retrouver cette vie madrilène d'avant le Covid, du temps où on pouvait improviser une danse en duo dans la rue, se parler sans distanciation sociale, se toucher sans peur et assister à un concert collé serré. Alors voilà, il y a plein de petits plaisirs de la vie quotidienne qui apparaissent encore plus charmants en cette période. Ça fait du bien de revoir tout ça. Donc Eva en août est une petite bulle de légèreté et d'optimisme et le film est en salle depuis ce matin.
Ça fait du bien de voir ça passer le moment d'effroi.
Exactement, il y a quand même un moment où on se dit oh là là, et puis voilà. Finalement non, c'est bien.
Le Festival de Deauville va rendre hommage à un cinéaste en septembre prochain.
Oui, ce réalisateur, c'est Barbet Schroeder, un franco-iranien, mais qui a réalisé plusieurs films aux États-Unis, pardon, ce qui est une condition sine qua non pour être honoré par le Festival du cinéma américain. On retiendra notamment de sa production outre-Atlantique les films Barfly, Le Mystère von Bülow ou encore le très glaçant Jeune femme partagerait appartement avec Bridget Fonda et Jennifer Jason Leigh, qui était sorti en 1992. Alors, le réalisateur donnera une masterclass pendant le festival. Elle sera animée par le toujours prolifique et passionnant critique de cinéma Philippe Rouillet. Alors, notez bien tout ça dans votre agenda. Le Festival de Deauville, ça se tiendra du 4 au 13 septembre prochain. Et Vanessa Paradis sera la présidente du jury. C'est so chic.
Ouais, sauf Vanessa.
Sauf Vanessa.
Une mauvaise nouvelle, mais pas très étonnante, hein, hélas, pour les salles de cinéma. Mulan sortira finalement directement en VOD.
Oui, ça devait être un des blockbusters de l'été. Les exploitants misaient beaucoup sur cette sortie fin août, a priori pour rebooster la fréquentation et inciter les spectateurs à revenir en salle. Mais là, c'est la douche froide. Hein. Disney vient en effet de décider que Mulan sera visible dès le 4 septembre sur sa plateforme Disney+, en tout cas dans les pays où cette plateforme est disponible, donc la France devrait en faire partie. Et le prix, il sera à la hauteur. Il faudra débourser $29.99 pour voir les aventures de la jeune Mulan en live action. Ouais, c'est cher, hein ?
C'est très cher.
$29.99. Disney a précisé que ce choix était exceptionnel et que cela ne signifiait pas que cette solution allait s'appliquer à toutes ses prochaines productions. Pour info, le groupe Disney a perdu 4 milliards d'euros ce dernier trimestre
en raison
du confinement. Les chiffres de la plateforme Disney+, eux, tout va bien, ça ne cesse de gonfler. Disney+ compte désormais plus de 57 millions d'abonnés à travers le monde.
Un peu d'abus, hein. On termine avec le groupe Bastille qui nous présente son titre « What You Gonna Do ».
Ouais, Bastille, comme son nom ne l'indique pas, c'est un quatuor anglais. Ils sont originaires de Londres, plus précisément. Alors dans cette chanson, les guitares sont saturées. La mélodie, elle est très pop. C'est assez éclectique, c'est assez électrique. On a envie de secouer la tête quand on l'écoute. Ça s'appelle donc « What you gonna do » avec 3 points d'interrogation à la fin. C'est très important. Je vous propose qu'on écoute un extrait.
Ça m'a l'air d'être de la bonne pop anglaise.
Ouais,
ça.
C'est très bien.
Il s'appelle Bastille en plus. Merci beaucoup Damien Cabrespine. Et puis à tout de suite, pour nous parler de la haine évidemment. Car Mathieu Kassovitz ne va pas tarder dans Culture Média. Raphaël d'abord, Caravane.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média. Pascal Clark.
Quoi de neuf demain dans les salles de cinéma ? La haine. 25 ans après sa sortie Uppercut, le film de Mathieu Kassovitz revient sur les écrans dans une version restaurée. Entre-temps, il est devenu un classique, avec des répliques et des scènes cultes. Et l'on ne parierait pas que ces thématiques soient totalement dépassées. Bonjour Mathieu Kassovitz.
Bonjour Pascal.
Merci beaucoup d'être en ligne. La haine à 25 ans. Moi, ça me file un coup. Et vous ?
Ah bon, moi, j'ai eu 53 ans il y a 2 jours.
Oh ! Alors là, j'hésite entre dire « Oh, bah, vous ne les faites pas, Mathieu » ou alors « Bon anniversaire » ou…
Ah non, c'est 53, on ne peut rien dire d'autre, on sait ce que ça veut dire.
Mm-hmm. 25 ans, si vous n'aviez pas réfléchi, ça vous paraît autant depuis que vous avez réalisé La Haine ?
Non, malheureusement, comme vous le savez, ça passe très vite. Mm. Et on n'est jamais prêt à… Et quand il est 25 ans trop tard, 25 ans plus tard, il est 25 ans trop tard. Voilà. Mais on peut rien y faire.
Quel est votre regard personnel sur ce film ? Est-ce que c'est un étonnement ? Est-ce que c'est une fierté d'avoir écrit, réalisé et même monté ce film-là qui est entré dans l'histoire du cinéma ?
Oui, c'est une très grande fierté. C'est toujours un privilège de pouvoir faire quelque chose qui reste dans les mémoires. Mais on a eu beaucoup de chance, on a eu une équipe très serrée, on a eu un sujet qui nous a tous tenus en haleine et on était en mission pour faire passer un message, donc on a réussi notre coup, c'était un vrai travail d'équipe et j'en suis très fier.
On vous en parle encore souvent, jour après jour, peut-être pas tous les jours, mais enfin, de ce film-là, La Haine, on vous branche encore là, sur ce film ?
Jour après jour.
Sérieux ?
Depuis 25 ans. C'est absolument incroyable. C'est pour ça que j'ai pensé vraiment qu'il fallait qu'on fête ces 25 ans parce que je me suis rendu compte à quel point ce film pouvait être important pour des gens. Je me suis fait accoster par des gamins de 15 ans et par leurs parents aussi. Donc, c'est assez étonnant et je suis content de voir que ça a toujours un impact aujourd'hui. Enfin, malheureusement, par rapport à l'actualité, je ne suis pas content. Je suis content pour le film, mais le film est toujours d'actualité, malheureusement.
C'est quoi une version restaurée pour cette ressortie 2020 ? Qu'avez-vous restauré exactement ?
On a fait une soirée, on a reparti du négatif original et on refait un 4K absolument terrifiant pour un réalisateur comme moi qui travaille en pellicule parce que le 4K est trop précis et montre des détails que je n'avais même pas vus à l'époque de la pellicule.
Ah, il y a des petits défauts alors ?
Ah, j'ai vu des plans flous que je pensais nets.
Oui.
C'est terrible.
Alors, lendemain de nuit d'émeute à Chanteloup-les-Vignes, la cité des Muguets a flambé après une bavure, le passage à tabac d'un des jeunes de la cité par la police lors d'un interrogatoire. Il est dans le coma. On suit Vince, Hubert et Saïd, le juif, le noir, l'arabe, Vincent Cassel, Hubert Koundé, Saïd Tagmaoui. Jusqu'ici, tout va bien, c'est à moi que tu parles. 1995, La haine, le combat pour faire le film, par Damien Caprespine.
C'est l'histoire d'un film qui aurait pu ne jamais exister. C'est l'histoire de trois mecs qui vivent une journée en banlieue sur fond d'émeutes et de bavures policières. C'est l'histoire d'un projet un peu fou qui réunissait tous les ingrédients pouvant faire peur à la société française des années 90.
C'est à moi que tu parles, putain.
La haine est un uppercut, une claque en noir et blanc qui a secoué la France de Juppé et qui a réussi à faire vriller le tapis rouge canois en amenant un peu de culture rap sous le soleil, exactement.
On croit que ça, merde ! Ils ont tout retourné, ces bâtards !
Un film inspiré par la vie réelle. En avril 1993, un jeune homme de 17 ans est tué dans un commissariat du 18e arrondissement de Paris. Le lendemain, vous participez, vous, Mathieu Kassovitz, à une manifestation pour dénoncer cette bavure et vous tenez là le sujet de votre prochain film. Mais puisque vous êtes un peu tête brûlée, vous décidez d'accumuler toutes les difficultés. Il y aura un sujet grave, des acteurs inconnus de toutes origines, un film en noir et blanc tourné au cœur d'une cité à Chanteloup-les-Vignes. Bref, tout ce qu'il faut pour effrayer les éventuels investisseurs et les chaînes de télé. Mais de ces contraintes, vous avez su tirer profit, vous impliquer les habitants et les grands frères de la cité au processus de tournage. Le budget de production est serré, alors vous faites des choix en raison. Dans La haine, la banlieue est belle. Elle se filme en plan large avec des hélicos, ou des steadicams. Une ampleur qui tranche avec les scènes parisiennes qui se tournent en équipe réduite. Et la contrainte est payante. Vous êtes récompensé par un prix de la mise en scène à Cannes. En juin 1995, le film est un succès. Il atteint très vite les 2 millions d'entrées en France.
Et donc j'ai vu La haine et j'ai été éblouie. Il y a une vraie profondeur dans ce film. Et en plus, il soulève des questions sociopolitiques avec la voix du peuple, la voix de cette communauté, la voix de la banlieue.
À sa sortie, votre amie, la comédienne Jodie Foster, que l'on vient d'entendre, est devenue votre meilleure ambassadrice. Après sa projection cannoise, La haine a fait le tour du monde, en Europe, au Japon, aux États-Unis. Spielberg, en personne, vous a même fait passer une lettre à l'époque pour vous dire combien il avait été impressionné par la puissance cinématographique de votre film.
Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien.
25 ans plus tard, La haine s'est transformée en film culte et la famille s'est même agrandie avec un petit frère, Lajli. Son film Les Misérables travaille le même sujet et La haine n'a pas pris une ride. On peut même dire qu'il résonne étrangement avec l'actualité.
L'histoire de La haine par Damien Caprespine. Et quelle histoire quand même, Mathieu Kassovitz. Il avait fallu batailler ferme à l'époque.
Vous savez, quand on commence et quand on veut faire des choses, on ne bataille pas, on avance. Il y a pas de la bataille, elle n'existe pas quand on est en mission. La bataille, c'est de fabriquer les gens. En fait, on a été suivis parce qu'on était très convaincants. Donc, on s'est pas battu autant que ça. On s'est battu pour faire le film. On s'est pas heurté à des murs.
Quelle est l'histoire de ce... Parce qu'évidemment, par réflexe quasiment, quand on parle de La haine, tout de suite revient jusqu'ici, tout va bien. Comment est né ce gimmick?
Alors, c'était la blague préférée de mon père, parce que c'est une vraie blague juive. Tout va bien jusqu'au moment où on tape le fond. Et c'est aussi une blague qui est dans un film de Sergio Leone. Voilà, donc j'ai volé ça à mon père et à Sergio Leone, mais il faut le dire à personne.
D'accord, bon, on le
rappelle. Non, en fait, j'ai aimé cette blague parce que cette blague permettait de raconter l'histoire d'un homme qui tombe d'un immeuble au début et de la transformer en une société qui tombe. Et c'était ça le but.
Mais c'est quoi la blague, finalement ?
Comment ça, c'est quoi la blague ?
Ben, vous dites que ça vient d'une blague juive, mais...
La blague de l'homme qui tombe d'un immeuble de 50 étages.
Ah oui, pour de vrai, d'accord. Voilà. Mathieu Kassovitz, vous avez dû ruser sur plusieurs tableaux, comme le rappelait à l'instant Damien Caprespin. Ce titre, déjà, La haine, vous ne le donniez pas trop quand vous alliez chercher une cité pour héberger le tournage ?
Non, ça aurait été une mauvaise idée d'arriver à la mairie en disant on va faire un film sur les bavures policières qui s'appelle La haine. Ou même dans un quartier auprès des jeunes et de leur dire on fait un film qui s'appelle La haine. Non, non, on l'appelait le film Droit de cité pour pouvoir tourner tranquillement.
Alors, on a retrouvé un reportage de l'époque, hein, à 95, à Chanteloup-les-Vignes. Un gamin de la cité, vous avez vu débarquer, évidemment, avec votre équipe. Il raconte. Écoutez.
Bah, quand ils sont arrivés, on les a pris pour des inspecteurs de police. On ne les connaissait pas. Mais le lendemain, le jour où ils sont arrivés avec tout leur matériel, bon là on a vu que c'était vraiment un film. Tous les jeunes étaient émerveillés. C'est presque la moitié de la cité aux ordres de Mathieu Kassovitz. Ça veut dire quand il dit action, tout le monde se tait. Quand il dit couper, tout le monde applaudit, il rigole. Et quand il dit action, tout le monde se retait.
Voilà, c'était un reportage à l'époque en 95 à Chanteloup-les-Vignes signé Jean-Philippe.
Ah, c'est Abdelmoula qui nous a aidés. C'est un des grands frères qui nous a vraiment tenu la cité pour nous permettre de tourner.
Ouais, et pour lui, vous êtes Mathieu Kassovitz. Le noir et blanc aussi, c'est pas évident de décrocher des budgets avec le noir et blanc. Vous y teniez vraiment à cette esthétique-là ?
Oui, je savais que c'était essentiel pour pouvoir avoir un film qui marque visuellement, puisque j'avais pas assez de sous pour avoir des couleurs coordonnées, de pouvoir... Ça coûte cher la couleur quand on veut faire quelque chose de beau. Donc ça demande à refaire entièrement tous les décors et avoir une espèce d'esthétique en couleur qui coûte cher. Et le noir et blanc rend tout très beau et surtout le noir et blanc installe les choses dans le granit parce que c'est pas de la couleur, c'est de la pierre, c'est du métal, c'est quelque chose qui s'inscrit et qui quand on le regarde enlève toute la pollution. Qui ne sert pas le sujet. Et c'est pour ça que le film est resté, je pense, dans la tête des gens, parce que ce noir et blanc-là installe le film comme quelque chose d'important. Quand vous arrêtez devant une photo noir et blanc ou un film en noir et blanc, vous avez conscience que vous avez affaire à quelqu'un qui a essayé de faire passer un message artistique.
Mmh. À quel moment avez-vous senti qu'il se passait quelque chose autour du film ? C'est vraiment au moment de la sélection pour le Festival de Cannes ?
C'était même avant. C'est quand on a commencé à faire nos projections de presse. Moi, j'avais fait venir des potes, parce que les projections de presse, il y a toujours 3-4 journalistes qui sont tout seuls dans la salle. Donc, j'avais fait venir des potes pour mettre de l'ambiance. Et ça a très vite pris une dimension qui nous a dépassés. C'est-à-dire que... tous les journalistes ont voulu venir et on n'avait plus de place pour mes potes à moi. Et donc, on était obligé de virer des journalistes. Et ça a créé un espèce de bordel très sympa qui a commencé ce qui n'existait pas à l'époque, mais qui s'appelle le buzz.
Ouais. Bordel, c'est aussi le mot que vous employez, puisqu'on a retrouvé une de vos déclarations, toujours en 95. Ça y est, vous arrivez à Cannes avec votre film La haine. Et voilà ce que vous dites il y a 25 ans.
C'est bien qu'il vienne à Cannes, mais espérons qu'il aura été compris ici et qu'il ne va pas être tout le branle-bas qu'il y a eu, tout le bordel qu'il y a autour du film, ne casse pas le thème, espérons. C'est pas un thème à la mode, c'est un thème sérieux. Par contre, on a fait du cinéma, on n'est pas des hommes politiques, on a pas fait du reportage non plus, on a fait un film de cinéma mis en scène avec des comédiens et un film, ça tient sur les comédiens, ça tient sur un scénario, ça tient sur une équipe, ça tient sur tout le monde, donc on est très contents.
Le même ?
Et quoi ?
C'est vous, pareil, 25 ans avant.
Bah ouais, on ne change pas.
Hein. C'est vrai, vous croyez qu'on ne change pas, en fait ?
Si on tient à son truc et qu'on est vrai avec soi-même assez jeune, normalement, on doit tenir cette direction toute sa vie. Après, on évolue, on grandit, on apprend et on, on a une réflexion différente, mais normalement, si on est sûr de soi et qu'on a une mission dans la vie, on ne devrait pas en sortir.
Ça fait deux fois, même peut-être davantage, que vous employez ce mot de mission. Mathieu Kassovitz, quelle était la mission pour la haine ?
De donner de l'humanité à des gens qui ont été déshumanisés. Et c'est le but de tout cinéaste qui essaie de faire passer un message social. C'est généralement de faire connaître les gens qui sont victimes d'une situation et qui ne sont pas bien représentés dans les médias. À l'époque, le cinéma avait cette fonction de pouvoir informer les gens parce que les médias ne les informaient pas, il n'y avait pas assez de sources pour pouvoir avoir un point de vue. Et le cinéma servait à ça, que ce soit le cinéma de Ken Loach. Moi, c'est le cinéma que j'ai voulu faire aussi. Donc, c'est un cinéma de mission, en fait.
Restez avec nous, s'il vous plaît, Mathieu Kassovitz. Vous avez 2 minutes devant vous pour faire ce que vous voulez. Mais revenez, s'il vous plaît, à tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Pascal Clark.
Le film La Haine ressort aujourd'hui en salle et de deux choses l'une, soit vous l'avez déjà vu et un film comme ça supporte parfaitement d'être revu sans problème, soit pas encore, alors allez le voir. Mathieu Kassovitz, vous êtes là ?
Bah oui, je suis là.
Ah, non, c'est jamais avec les lignes téléphoniques. En 95, vous avez 28 ans, vous avez déjà réalisé un premier long métrage qui s'appelle Métis. À l'époque, comment naît la toute première idée, le tout début, le tout premier argument de la haine ?
J'étais assistant sur un film, j'étais en voiture dans Paris et j'ai entendu à la radio qu'il se passait quelque chose au commissariat du 18e arrondissement. J'y suis allé. Et c'était l'assassinat de Macomé et Mboilé. Et quand je suis arrivé, il y avait toute la famille devant le commissariat. Et c'était 300 personnes pacifiquement avec les familles qui pleuraient et qui voulaient juste des réponses, qui voulaient comprendre. Ça a duré quelques heures. Et puis les CRS ont commencé à tout virer. On virait les gens et les jeunes se sont énervés. Et j'ai commencé à analyser le processus qui fait qu'on en arrive à des jeunes qui s'énervent en partant d'une bavure qui est évidemment un drame qui ne devrait pas exister déjà. Et s'il existait, on devrait respecter les victimes, ce qui n'était pas le cas.
Le scénario a été compliqué à écrire ou c'est venu à partir de là assez naturellement ?
Non, le scénario était très simple à écrire puisque j'ai commencé en connaissant la fin et je savais que j'avais une fin très forte et donc j'ai fait tout le film en pensant à cette fin et qui était le sujet du film, qui était les 10 dernières secondes du film et mon seul but était de rendre ces enfants, créer de l'empathie pour ces 3 jeunes. Comprendre qu'ils sont pas seulement humains, mais qu'ils sont drôles et qu'ils sont intelligents et qu'ils ont des vrais problèmes et qu'ils ont des vraies questions. Et puis taper dans le cœur du spectateur dans les 10 dernières secondes.
Mmh. Au-delà de ce trio-là, il y a beaucoup de vos copains dans le film. C'est aussi une génération qui passe à l'écran, non ?
On fait des films quand on est jeune avec ses potes, hein, généralement, et avec des gens qu'on connaît. Ces gens-là, s'ils ont du talent, ils seront là 25 ans plus tard. Donc on retrouve dans le film des gens qui étaient là et qui étaient des jeunes qui commençaient à l'époque.
Oui, on voit passer donc Benoît Magimel, Karen Viard, il y a même Vincent Lindon. Hein.
Ouais.
Et puis vous, dans un tout petit rôle, parce que fallait que vous y soyez un peu, voilà, fallait passer dedans, non ? C'était important.
Non, mais c'était le rôle du skinhead. Je pense qu'il était assez symboliquement important que je le fasse pour plein de raisons.
Ah, bah alors là, vous m'intriguez.
Non, mais c'est un plaisir pour moi, pour les comédiens. Puis c'est une façon d'imposer, de marquer le film d'une certaine manière aussi et de montrer que je suis là politiquement.
Mmh. À l'époque, vous en avez dit un mot tout à l'heure, bon, pas d'internet, la banlieue n'est simplement pas représentée, pas filmée. Vous y passez du temps parce que c'est pas là que vous vivez à l'époque, Mathieu Kassovitz, quand même.
Le quoi ?
Je dis qu'on n'avait pas de représentation de la banlieue à l'époque.
Ouais.
Vous y passiez du temps, vous ?
Ah, moi j'étais souvent en quartier. En fait, moi j'ai eu la chance de découvrir le hip-hop en 1984-85. Et on était un petit groupe de cinquantaine de personnes qui se retrouvaient dans Paris Et dans ces gens-là, il y avait absolument toute la population représentée, et beaucoup de gens des quartiers, mais beaucoup de gens aussi de Paris. J'ai découvert après que même dans ces gens-là, il y avait des fils de milliardaires, et à côté, des fils d'émigrés. Et donc, je savais pas qu'il y avait un milliardaire, donc j'ai pas profité, mais par contre, j'allais chez mes potes dans les quartiers, et c'est comme ça que j'ai découvert les quartiers, c'est comme ça que j'ai découvert cette jeunesse-là, et que j'ai vu l'envers du décor.
Alors évidemment, on est tenté de se demander si ça a tellement changé et on est tenté de comparer La Haine et Les Misérables, le film de Ladji. Qu'en pensez-vous ?
Il faut, parce que le film de Ladji, c'est la reprise et la suite de ce que... C'est-à-dire qu'à l'époque, ça ne pouvait pas être un mec de banlieue qui fait un film sur la banlieue parce que personne ne connaissait la banlieue. Mm-hmm. Maintenant qu'elle est connue et maintenant qu'elle a sa personnalité et qu'elle a évolué aussi... Il en sort de là des enfants, des jeunes, dont certains ont été influencés par le film, évidemment, quand ils l'ont vu quand ils avaient 12-13 ans, et qui aujourd'hui sont des artistes qui font leur propre travail. Donc, ils continuent à faire passer ce message, qui est un message qui n'est pas un message artistique, qui est un message social, et qui, s'il est toujours d'actualité, s'il n'y avait plus de bavure policière, là, je l'ai aurait fait un autre film. Donc, ce n'est pas une référence directe à La Haine, c'est une référence à sa vie. Mmh. Mais La Haine a mis la première pierre à l'édifice, c'est tout. Mmh.
Rapidement, vous n'en avez pas fini, visiblement, de La Haine. Bientôt, la comédie musicale. C'est vrai, cette histoire ?
C'est tout à fait vrai. Je me lance dans un très beau projet qui m'a été proposé par une équipe qui fait toutes les grosses comédies musicales sur scène en France. Et qui sont des jeunes danseurs et qui m'ont dit qu'ils en avaient un petit peu assez de faire des comédies musicales d'époque et ils voulaient traiter un sujet un petit peu d'actualité. Ils pensaient que La Haine était fait pour ça et j'étais d'accord parce que j'ai conçu La Haine un petit peu comme un espèce de suite de scénettes qui pourraient être des raps en fait. Et j'ai réécrit le scénario là, j'ai réadapté le scénario en l'imaginant chanter et rapper et danser. Et on est en train de préparer un spectacle qui est un mélange de live, de cinéma et de technologie.
Pour quand ?
Fin 2022.
Nouvelle pause, Mathieu Kassovitz. On a encore des petites bricoles à voir avec vous. Oui, mais vous allez voir. Mais pourquoi vous êtes pressé là ? Non, quelques minutes encore et puis on vous libère. Non, tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Pascal Clark.
Ben oui, Mathieu Kassovitz, je voulais absolument aussi vous parler de lui. Malotru, désolé parce que ce rôle-là, dans le Bureau des légendes, a marqué.
On vous conduit dans le Perche, vous connaissez ?
J'y suis déjà passé, oui.
Vous allez y rester quelques semaines. Le temps pour vous de vous refaire une santé et pour nous de vous poser quelques questions.
Je voudrais voir ma fille.
Aucun problème. Vous l'appelez, fixez un rendez-vous et nous irons la chercher.
Je suis surveillé ?
Non, protégé.
Alors je suis libre ?
Libre dans la mesure où vous restez discret.
Donc libre et protégé.
Disons que vous faites à nouveau partie de la famille. Comme un cousin de province qui donnerait à nouveau des nouvelles.
Bon, est-ce qu'il y a encore du malotru en vous ?
Ah ben, testez-moi, vous verrez.
Par téléphone, ça va être compliqué. Non, sérieusement, voilà, c'est un rôle fort, j'imagine, qui vous colle encore au basque.
Non, c'est pas un rôle qui colle au basque, c'est un rôle qui se fait... qui colle au basque des spectateurs, c'est ça qui est intéressant.
Mais pas vous.
Non, parce que c'est pas des rôles... Si vous regardez vraiment la série, c'est pas des rôles qui sont très compliqués à jouer. Moi, je suis poker face pendant tout le truc. Dès qu'il y a une émotion, j'ai pas le droit de la jouer. Donc c'est plutôt très facile à jouer. Ce qui est intéressant, c'est la façon dont le spectateur l'interprète, la façon dont tous ces personnages-là évoluent ensemble et qui font qu'on a créé une série absolument exceptionnelle avec le Bureau des légendes. Mais ça dépend des saisons. Chaque saison, il y a un comédien qui s'en prend plus plein la gueule que les autres. Mais quand il s'en prend plein la gueule, les autres, généralement, sont plus... leur jeu n'est pas aussi intense. Donc c'est ça que moi que j'ai trouvé fascinant avec le Bureau, c'est les gens qui viennent me voir en me disant ce que vous me dites là, c'est des waouh, quel rôle incroyable. Mais c'est un des rôles les plus simples que j'ai jamais eu à jouer mais des plus forts, qui a le plus fortement impacté les gens. Donc c'est assez étonnant de voir la force de persuasion qu'a le cinéma, enfin qu'a l'image, et la façon dont on peut manipuler les gens.
Un bon rapport qualité-prix en termes de poker face, effectivement, hein, parce que c'est pas si évident, malgré tout ce que vous dites, quand on a très peu d'émotions à faire passer et qu'il faut quand même la faire passer, eh bien, du coup, ça se joue sur un fil.
Oui, mais ça reste malgré tout plus simple qu'elle est obligée d'avoir des émotions à chaque scène.
On est un peu dans l'expectative. C'est fini ou pas cette série, Le Bureau des légendes?
J'espère que c'est pas fini, moi.
Vous savez pas,
ça continue. Hein?
Vous ne savez pas pour de vrai?
Non, je sais pas, parce que celui qui décide, c'est Éric Rochant. Si vous voulez, les auditeurs, si vous voulez que la saison 6 existe, il faut écrire à Éric sur Twitter. Il est sur Twitter, vous lui envoyez des messages. Si vous voulez, je peux même vous donner son numéro de téléphone. Appelez Canal+. Faites passer le message que vous voulez. Je pense qu'Éric a juste besoin de se reposer parce qu'il a fait ça pendant 5 ans, tous les ans, sans jamais s'arrêter, sans avoir un mois de vacances, et que c'était très, très dur psychologiquement. Et je pense qu'il a besoin de se ressourcer et repartira pour une sixième saison, j'espère, l'année prochaine.
Mais vous lui avez dit que vous aviez envie de continuer directement à Éric Rochant?
Oui, on lui a tous dit, on est tous amoureux de la série, on veut tous que ça continue. On veut tous mourir d'une manière romanesque, un minimum.
Parce que pour l'instant, c'est trop,
trop
en l'air pour être terminé. Jacques Audiard, qui vous avait fait tourner dans son premier film, Regarde les hommes tombés, a signé les deux derniers épisodes de la saison 5, et il a été mal compris, Jacques Audiard, non?
Mal compris par ceux qui l'ont mal compris et bien compris par ceux qui l'ont bien compris. Vous savez, quand vous terminez une saison, une série qui fonctionne bien, vous ne pouvez pas vous en sortir. Vous serez toujours dans le mauvais. Moi, mes séries préférées, j'en ai pas une où j'apprécie leur fin, mais pas une. Et je suis obligé de sourire comme un imbécile et de dire « Ah ouais, c'est super, la fin des Sopranos est géniale. » Non, elle n'est pas géniale, elle me satisfait pas, mais elle est géniale du simple fait que c'est l'auteur qui nous amène là et qui nous dit, voilà, ça s'arrête là. C'est plus à remettre en question, et c'est assez fort comme possibilité, comme pouvoir qu'a un auteur de terminer une histoire qui n'a duré plusieurs années. Donc on ne peut pas s'en sortir, parce qu'on a une relation, c'est comme si sa copine vous quittait, on ne comprend pas.
Et très rapidement, s'il ne tenait qu'à vous d'imaginer le futur de Malotru, que feriez-vous?
Pour moi, Malotru, il se fait changer le visage et il devient Guillaume Canet et continue tout seul avec un fusil, un sabre et un cheval.
D'accord. Merci beaucoup Mathieu Kassovitz. N'oubliez pas que vous commencez un tournage dans quelques jours, le film d'Yvan Attal, nous a-t-il dit.
Et dans un mois, le film de Guillaume Canet aussi.
Ah, mais c'est pour de vrai, d'accord. Été à vous. La haine ressort aujourd'hui en salle, version restaurée. Bientôt la comédie musicale. Merci d'être passé avec nous sur Europe 1, Mathieu Kassovitz. À bientôt.
Merci beaucoup Pascal.
À suivre les indispensables d'Europe 1. À l'instant sur Europe 1, c'est l'heure des indispensables. Margot Barallon, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à tous.
Nous sommes mercredi, jour des sorties. Il n'y a pas que la haine dans la vie. Et vous nous conseillez non pas un film, mais un documentaire qui s'appelle White Riot.
Oui, c'est un documentaire musical qui nous emmène dans la deuxième moitié des années 70 à Londres, époque et lieu béni pour le punk rock. Vous entendez les Clash, évidemment, hein, et le documentaire raconte un moment très particulier de l'histoire de la musique anglaise. C'est la naissance de Rock Against Racism, mouvement qui, comme son nom l'indique, a été lancé par des passionnés de rock contre le racisme. Alors pour comprendre ce qui s'est passé exactement, il faut revenir en 1976. Les Sex Pistols n'ont pas encore sorti leur tube God Save the Queen, vous savez, celui qui a popularisé le slogan No Future.
Ah bah évidemment, oui.
Et pourtant, la société anglaise a déjà l'impression d'être privée d'avenir. Et comme souvent dans ces cas-là, les idées racistes en profitent pour gagner du terrain.
La situation économique était très difficile. Le FMI était intervenu, il avait demandé de baisser les salaires et les aides sociales.
The whole atmosphere was
On vivait dans une ambiance sinistre, vraiment pénible. Et la presse de droite répétait toujours la même chose, on va être envahi, on va être attaqué.
Alors celui qui parle, il s'appelle Red Saunders, c'est un rocker et il observe à l'époque la montée du populisme d'extrême droite, y compris dans le monde de la musique. Parce qu'il faut se souvenir, et le documentaire le rappelle, que David Bowie avait fait l'apologie du fascisme pendant un concert.
Oh non, vous faites du mal.
Alors il s'était ensuite excusé disant qu'il était complètement défoncé. mais ce sont surtout en fait des déclarations d'Eric Clapton, et là aussi ça fait du mal, qui vont alerter Red Saunders.
On connaît tous Eric Clapton comme le grand guitariste de blues, le dieu de la guitare blues. Le blues, c'est une musique d'esclave. Et le voilà qui soutient Enoch Powell, le plus grand suprémaciste blanc de toute la Grande-Bretagne à l'époque. Au début, on n'y a pas cru. J'étais tellement en colère que je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose.
Et qu'a-t-il fait alors, Margot ?
Eh bien, il a publié une lettre ouverte à Eric Clapton dans laquelle il appelle aussi le monde du rock à s'unir contre le racisme. Ça va avoir un retentissement inattendu. Des milliers de personnes répondent à cet appel, des groupes de musique aussi. Et Rock Against Racism va lancer un fanzine, organiser des rencontres, des concerts en essayant de mêler les musiciens blancs et noirs. Son apogée, c'est l'organisation d'une grande marche contre les discriminations en 1978, avec au bout un concert au Victoria Park de Londres, 80 000 personnes, et Steel Pulse, Les Clash ou encore Tom Robinson.
Voilà, et c'est un épisode un peu oublié ou carrément zappé d'ailleurs par les jeunes générations.
Oui, comme moi par exemple, qui n'y connaît absolument rien. non, mais moi, même pas jeune, voilà, c'est pas forcément mon truc. Et c'est ça qui est bien avec ce documentaire White Riot, c'est que vous soyez un grand fan de punk rock ou un néophyte, eh bien ça s'adresse vraiment à tout le monde. Évidemment, part belle est faite à la musique, mais aussi aux anecdotes. Par exemple, donc je vous ai dit 80 000 personnes au grand concert de 78, eh bien l'un des organisateurs explique comment ils ont réussi à ne pas avoir de problème avec la mairie de Londres, et c'était plutôt rock'n'roll.
J'avais dit à la mairie qu'on serait 500 pour éviter les ennuis. Le gardien du parc est arrivé et je lui ai présenté le groupe Steel Pulse. Et la dernière fois que j'ai vu ce gardien, c'était au milieu d'un nuage de marijuana. Voilà comment j'ai géré la mairie.
Voilà comment on gère une mairie. Alors, ce qui est aussi passionnant dans ce documentaire, c'est qu'il illustre aussi finalement le pouvoir politique de la culture. Ça peut paraître très bisounours dit comme ça, mais on se rend bien compte en voyant le film que l'histoire aurait pu être différente. Parce que les fans de punk rock de l'époque, eh bien, beaucoup étaient sympathisants de l'extrême droite. Donc, c'était pas forcément évident pour certains groupes, certains musiciens, de s'élever aussi frontalement contre les populistes. Alors, ils l'ont fait. Et un an plus tard, élection générale en Grande-Bretagne en 79, et le National Front, le parti d'extrême droite, a été battu. Donc on peut penser que le monde du rock a contribué au moins en partie à cette défaite.
Oui, on peut le penser, ça fait même du bien d'y penser comme ça. Merci beaucoup Margot Barallon, et ce film s'appelle
White Riot.
Exactement, j'écouterai bien Célassio, pas vous ? Je n'aurais jamais dû ouvrir ma gueule. C'était un dîner parisien stupide, de routine, qui occupe une soirée d'ennui. On ne s'attend à rien. Tu ne sais plus qui parle. Les voix et les rires, quand il y en a, s'entremêlent joyeusement. Tu dis n'importe quoi. Tu n'écoutes plus les réponses qui t'assomment et t'indiffèrent. Tu es là, à peine présent, juste là, et ça passe. Je suis polémiste. C'est ce qu'on sait de moi, mon métier déclaré au ministère. Un petit polémiste à deux balles que l'on reconnaît dans la rue. Un coupe-fil comme un autre. Lorsque j'émets une opinion, on ne me prend pas franchement au sérieux. On m'écoute, on fait semblant de réfléchir, on s'offense un peu, puis on passe à autre chose. Très vite, c'est la règle. Je ne suis pas vraiment un intellectuel ni un penseur, je cherche juste des manières d'offenser pour interpeller les âmes usées et résistantes à tout. J'officie sur une petite chaîne de la télévision numérique qui diffuse aussi sur l'Internet. Bizarrement, la télé à l'ancienne qui s'acharde à gaver à heure fixe ses téléspectateurs d'images calibrées pour combler l'ennui ou la flemme de choisir a vaillamment survécu au progrès. La télé tombe en miettes, mais il...
Eh oui,
C'est frustrant hein, quand on s'arrête, mais c'est le jeu de la première page. Celle du prochain roman signé Ilan Duran-Cohen, à paraître le 19 août chez Actes Sud, Le Petit Polémiste. Culture Média, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous demain, 9h, en direct pour 2h, 1h Média, 1h Culture. À suivre sur Europe 1, Anne Roumanoff, le best-of. Passez une bonne journée d'été. Je ne vous embrasse pas, à demain.